Moi, je me disais, hey, c'est sûr que. Tu sais, parce que c'est prévisible, là. Comme la semaine prochaine, savez-vous, ça va être quoi le message? Ça va être sur ça va être quoi l'illustration? Ben oui, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben là, Dave, vous savez que. Tu sais, ça a fait vigne, architecture, le bâtiment. Là, on est rendu au corps.
Je suis pas intelligent à ce point.
Non? Ben, bienvenue dans le club. Amen. Dieu a choisi les choses. Comment ça dit dans 1 Corinthiens 1? Ouais, c'est ça.
Moi.
Ouais, c'est ça. Amen. Ben, 1 Corinthiens 12, hein, c'est là qu'on va. Hop, oui, OK, j'ai parti l'enregistrement. Ça va, maestro? Es-tu parti pour. Yes, good. Et oui, nous sommes dans 1 Corinthiens 12 et nous considérons. Notre troisième illustration sur notre union avec Christ, c'est le thème du mois, et évidemment aujourd'hui c'est notre union illustrée par l'anatomie, le corps, mais tu sais, le corps humain, l'anatomie. Et donc on va lire les versets 1 à 7 pour s'introduire, on va lire d'autres versets, en fait on va passer au travers la majorité du chapitre à travers, dans le message. Maintenant on commence avec les versets 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah, Seigneur, on est tellement content d'être ici ce matin. Merci pour ta parole vivante qu'on ouvre maintenant. Tu es notre vie, tu es la vie de cette Église, et on veut te considérer, toi, Seigneur. Oui, des illustrations, oui, des choses qui nous concernent, mais tout revient à toi, Seigneur. Tu es la tête de l'Église, tu es la tête du corps, c'est toi, Seigneur, le plus important. Donc, on regarde à toi, ensemble, alors qu'on s'arrête avec ta parole, et on s'attend, Seigneur, à ce que tu nous enseignes chacun, mais aussi ensemble. Merci qu'on ait un corps, qu'on est membres les uns des autres, que c'est plus grand que juste ma petite vie à moi. Nous appartenons les uns aux autres. Merci pour ça, Seigneur. C'est merveilleux, c'est de toi. C'est plus grand que nature, parce que tu es extraordinaire et merveilleux. Donc, Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu nous donnes. On s'en remet à toi pour que tu accomplisses tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Donc, oui, on parle du corps humain, l'anatomie. Parce qu'il y a vraiment un passage, là, ça parle des yeux, ça parle de Louis. À un moment donné, ça dirait « Où serait Louis? » Non, c'est « Et s'il était tout oui? » Tout oui! Tout oui! Bon, on va passer le riage tout de suite, parce que sinon, ça me déconcentre, hein, parce que là, j'ai deux ricanus en avant. Bon, fait que là, tout oui, je l'ai dit, OK? Puis j'ai même dit « Tout loup, tout oui! » Hey, c'est vrai, on a des gens et... On a des visiteurs aujourd'hui. Et ta mère, l'as-tu averti qu'on était un peu... Hein? Merci. OK. Alors, vous savez, on est dans le thème, là. C'est prévisible, c'est facile à voir. J'ai déjà tout donné les illustrations à l'avance pour les messages. Mais les découvrir ensemble, c'est ça qui est vraiment super. On a vu dans le premier message au début du mois comment notre union avec Jésus-Christ est illustrée par la vigne. Hein? Jésus est notre racine nourricière. La semaine dernière, avec l'édifice, on a vu comment Jésus est le roc, le fondement sur lequel on s'édifie. Et aujourd'hui, on voit le corps, donc comment Jésus est notre tête. Hein? Comment c'est lui qui dirige, qui coordonne, qui fait grandir tout ça. Et juste pour vous dire que je n'ai pas pris ça juste dans un passage de ici, dans 1 Corinthiens 12. Dans Colossiens, par exemple, ça dit au verset 1-18, ça dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » C'est pour ça que je disais, c'est vraiment par rapport à Jésus-Christ, tout ce qu'on considère. Et aussi, c'était le verset qui était dans le bulletin, mais je vous relis Éphésiens 4, 16. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, ce qu'on considère aujourd'hui, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, aujourd'hui, on continue, dans le fond, sur notre lancée avec les illustrations, mais je dirais que faut remarquer, je le disais tantôt avant le temps de prière, que souvent on considère, tu sais, mettons, j'ai été crucifié avec Christ. Là, on le voit individuellement. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On voit individuellement, et c'est tout à fait vrai, là. On est unis à Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Christ est ma vie. C'est un énoncé personnel. Mais ensemble, les illustrations qu'on considère, 3 sur 4 des illustrations qu'on considère nous parlent de notre union avec Jésus, mais de façon collective. Donc, pas juste un individu avec le Seigneur, mais un ensemble d'individus avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de précieux, d'important, et peut-être un peu nouveau, parce que des fois, quand on parle d'union avec Jésus, on en parle souvent avec la perspective personnelle, qui encore là n'est pas fausse et pas erronée, mais je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup considéré celle-là collective. Et donc, le Seigneur veut nous montrer quelque chose par rapport à lui-même là-dessus, et aussi par rapport à nous. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, on continue à le faire dans ce message et le prochain. Notre union avec Jésus-Christ, c'est une vérité, une réalité qui ne veut pas juste nous enseigner en vase clos, mais c'est une vérité relationnelle que nous vivons de façon interconnectée. Qu'on vit les uns les autres. Les fameux les uns les autres dans la Bible, c'en est une vérité justement qui nous connecte les uns les autres, comme on a vu la semaine dernière avec l'édifice. Hein? Puis je vous rappelle, juste quelque chose que je vous rappelle, non seulement on peut prévoir les illustrations, parce que je vous les ai données d'avance, mais on peut même prévoir les points d'illustration. Finalement, je suis très prévisible dans le mois de mai. Je ne sais pas ce qui me prend là, mais on parle tout le temps de la grâce, de la vie, puis du fruit de cette vie. C'est tout le temps les points qu'on considère à travers, on l'a vu là, depuis le début du mois, puis aujourd'hui, ça va être encore la même chose. Parce que c'est les choses vraiment de base par rapport à notre union avec Jésus-Christ. Hein? Tout est par grâce, c'est pour la vie, puis la vie, ben, ça produit du fruit. Fait que c'est vraiment les éléments de base qui sont là dans toutes les illustrations. Et aujourd'hui, comme particularité avec le corps, on voit justement cette interconnectivité. Interdépendance, une dynamique spirituelle mutuelle pour grandir dans cette grâce ou pour le dire dans les mots de 2 Pierre, qu'on peut comprendre justement aussi maintenant, pas juste de façon individuelle, mais de façon collective, mais croissez dans la grâce, pas juste chacun, mais ensemble, croissez dans la grâce et dans la connaissance, connaissance relationnelle, ensemble, découvrir notre Dieu. Donc, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, et sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je viens de vous lire 2 Pierre 3, 18, le dernier verset de ce bel épître de Pierre. Et donc, on voit encore une fois que, en nous sauvant, le Seigneur nous a placés dans une œuvre bien plus grande, qui nous dépasse, qui est plus grande que tout ce qu'on pense ou qu'on peut comprendre. Est-ce que c'est vrai, n'est-ce pas, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées? Ses voix ne sont pas nos voix, sont bien au-dessus. Fait que, on va s'émerveiller ensemble de notre Dieu avec 3 éléments dynamiques de l'union du corps de Christ. 3 éléments dynamiques de cette union. D'abord, dans les versets 1 à 6, on les a lus. Il y a 2 choses que je vais vous faire remarquer. Dans le premier point par rapport à la grâce. D'abord, je vous rappelle, la grâce, on l'a vu avec la vigne, que si on est rattaché à Dieu, d'une façon ou de l'autre, c'est tout par la grâce. Hein, parce que on a vu dans Romains, hein, de même aussi, il y a dans le temps présent un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais je veux aussi, à ce sujet-là, au niveau de la dynamique du corps, vous amener un beau texte, c'est dans Romains 12, qui nous parle justement de la grâce dans la dynamique du corps. Ça dit ici dans Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, la grâce, Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, hein, c'est de ce dont on parle, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, on voit que toute cette idée du corps est aussi reliée vraiment à la grâce de Dieu, hein, selon la grâce qui nous a été donnée. Ce n'est pas par nos mérites si on peut être dans cet organisme vivant qu'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et une autre chose que je veux vous faire remarquer concernant la grâce, c'est quand on parle de dons, là, pour ce qui concerne les dons, savez-vous c'est quoi le mot? Si on parlait grec, c'est quoi le mot? Quand je dirais don, je dirais quoi? Charisme. Bon, il y a différentes déclinaisons du mot, là, dépendamment comment on le conjugue. Donc, ça veut dire, c'est les dons de la grâce. Les dons de la grâce, c'est des dons qui sont donnés, pas selon les mérites, mais vraiment comment Dieu le trouve bon. Donc, le don en tant que tel nous parle de la grâce. Puis en plus, la façon qui est opérée au verset 6, ça dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le mot pour opérer, c'est le mot duquel nous avons le mot énergie ou dynamiser. Et vraiment, l'idée, c'est que le don vient de Dieu, puis l'exercice du don aussi vient de Dieu. Donc, tout est de Dieu, tout est par grâce. La grâce d'être incorporé au corps et d'en faire une partie de façon dynamique. Et d'ailleurs, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est opéré par l'Esprit. Et l'Esprit, vous savez, un des titres qui est donné au Saint-Esprit, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Dans Hébreux chapitre 10, verset 29. Et donc, ça, tout ça, ça veut dire, là, je vous introduis un peu au concept de grâce avec le corps qu'on considère aujourd'hui. Ça veut dire que cette grâce-là, ça fonctionne ainsi, si je le résume en quelques phrases. L'esprit de grâce et de vérité, c'est un autre titre de l'esprit, là, lorsqu'il régénère quelqu'un, hein, parce que comment qu'on est né de nouveau par l'esprit de Dieu, ok? Lorsque l'esprit de grâce et de vérité régénère quelqu'un, il le transforme, il lui donne un cœur nouveau, une nouvelle vie, un nouveau but, un nouveau tout finalement. Tout est nouveau. Hein? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, toutes les choses sont nouvelles. Voici, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il fait ça. Puis après ça, donc, il transforme, nouveau. Puis là, il l'équipe. Le même esprit de vérité et de grâce. L'équipe, il lui fait grâce d'un ou de plusieurs dons. Puis un don des fois plus prééminent, des fois beaucoup plus discret, c'est ce qu'on voit là-dedans. Hein? Il y en a qui ont essayé plus d'honneur, moins, puis tout ça. C'est tout l'esprit qui décide ça. Il sauve, puis il équipe avec les dons qui sont sur mesure. OK? L'esprit, là, c'est lui, c'est la manifestation de l'esprit, verset 7, est donnée pour l'utilité commune. C'est lui, c'est donné, c'est l'esprit qui le donne, puis pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'édification, pour le reste de l'ensemble du corps. Et donc, il transforme, il équipe et ensuite il l'utilise comme il le veut dans le corps. Et tout ça, et là, écoutez bien, tu sais quand ça dit au verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que personne ne dit, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, puis au contraire, que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ici, ça nous parle, quand on compare avec ce qui est dit avant sur les idoles des païens, que tout l'exercice des dons, toute cette question de ce qu'on considère aujourd'hui, c'est christocentrique, par opposition à égocentrique. Le contexte nous montre ça parce que, on sait, les Corinthiens avaient une forte tendance à l'égocentrisme. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollo. Moi. Le moi était assez fort puis manifeste, OK? Mais ici, ce qui est dit, non, ça n'a pas par rapport avec vous autres. Ça a rapport avec la tête, avec celui qui vous a unis ensemble. Comme on l'a chanté, hein? C'est Dieu qui nous a unis ensemble. Et donc, c'est important de se rappeler parce que si on parle du don qui est du Saint-Esprit, si on parle des dons qui viennent du Saint-Esprit, si on parle de l'Esprit qui opère, Mais qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? J'aimerais ça vous rappeler avec trois versets dans les Évangiles qui nous disent que l'Esprit nous amène toujours à Jésus-Christ. Mais le Consolateur, ça c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Il rappelle ce que Jésus a dit. 15, 26, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, de Jésus. Puis aussi, Jean 16, 14, 13 et 14, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Comme le Fils est venu révéler le Père, ben le Saint-Esprit révèle le Fils. C'est comme le Dieu trinitaire qui travaille ensemble. Ici, toute l'idée de l'exercice des dons dans le corps, c'est christocentrique, parce que le Saint-Esprit, c'est toujours ce qu'il fait. Il amène toujours le spotlight. Le spotlight. Bon, on dit ça en français, donc un spotlight. Le projecteur, merci. Sur Jésus. OK? C'est pour ça que nous avons l'unité dans la diversité. Un corps, ça a toutes sortes de membres, c'est fait de différents membres, mais il y a une seule tête. Et le corps est uni parce que c'est la tête qui dirige. Et cette unité dans la diversité, elle est possible parce que Jésus est le centre, et le but, et la tête. OK? Une application importante. Tout exercice de ce qu'on pourrait appeler don spirituel qui prend racine ou qui exalte le soi, ou qui est égocentrique, c'est une contrefaçon, ça ne vient pas de l'esprit de vérité. Parce que Dieu veut s'assurer que tout est et reste dans sa grâce. Il veut se dévoiler lui. Et la grâce, c'est quoi? C'est dépendre de lui. C'est ça l'idée d'être égocentrique. D'être christocentrique, égocentrique, c'est au contraire dépendre de soi, de sa chair. Si on est capable de le faire nous-mêmes, il y a un problème. C'est pas la grâce, c'est soi. Et là-dessus, j'ai une application, parce que là, beaucoup sûrement pensent au mouvement charismatique. Charismatique, ça vient de charisme, c'est l'idée des dons. OK, on peut parler d'eux autres, on pourrait dire que même des fois, il y a des formes caricaturales, évidentes, OK, qu'on peut décrier. OK, on peut dire que ça peut être égocentrique. Mais qu'en est-il de l'exaltation du soi, de la volonté, puis on essaye, puis on y va, puis go, go, go? C'est encore là l'exaltation du soi. Ça, c'est fort dans d'autres milieux. Ça commence par BAP, ça finit par TIST. Puis l'autre, c'est la pensée de l'homme. Puis là, Augustin a dit ci, puis Calvin a dit ça. Puis ça, ça commence par RIP, ça finit par former. Je pense que je vais te donner un petit peu. Mais voyez-vous, on va en parler dans un instant, mais les trois grandes mouvances chrétiennes peuvent toutes trouver leur lot là-dedans d'être égocentriques, exalter le soi, et non pas christocentriques. On va en parler dans un instant, mais juste pour vous dire pour l'instant, ces mouvances chrétiennes, ils vont errer, parce que l'idée, c'est pas « Ah, c'est-tu la bonne, la mauvaise? » L'idée, c'est « Est-ce que Christ est tout? » Et nous, on n'est rien. La centralité de Christ, puis l'effacement du moi. Le moi n'a pas rapport, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ça le langage de la grâce. La grâce, c'est tout à Christ, rien à moi. Et ça, ça l'émane de l'humilité. Et c'est ce qu'on a vu dans les versets dans Romains que je vous ai lu au verset 11, hein, au chapitre 12. Je vais juste relire ici. Par la grâce qui m'a été faite, je dis à chacun de ne pas avoir, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est ça, quand on est égocentrique, le moi, puis tout ça. Mais de revêtir des sentiments modestes, hein, l'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Donc, que tout soit fait avec humilité, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu qui le rend possible. Ça m'amène au deuxième point non seulement la grâce d'être incorporé au corps de Christ, mais deuxième élément, c'est la vie qui anime le corps de Christ. Regardez au verset 7 jusqu'à 11. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » Verset 11. « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. » La vie qui anime le corps de Christ. D'abord, ça dit que tous les dons sont donnés par l'Esprit. OK? Puis de façon souveraine, comme il le veut. Il ne nous demande pas conseil, il ne nous demande pas ce qu'on en pense. C'est Dieu souverainement qui donne les dons comme il le veut. Et parce que c'est dans sa grâce, ça commence de lui, et c'est pour la vie, parce que l'esprit de vie infuse la vie dans son corps. Et remarquez qu'au verset 11, on a lu ici encore le mot « un seul et même esprit opère », encore notre mot « énergie », ben, duquel on a « énergie ». C'est l'esprit qui opère, qui énergise. Ça nous rappelle que le sujet dont nous parlons n'est pas de nature humaine, naturelle, mais plutôt de nature divine, surnaturelle. Et c'est pour ça que la vie qui anime le corps de Christ, c'est pas juste la vie normale, comme le fait qu'on a la vie, le mouvement et l'être, comme Paul le dit dans Actes 17, mais la vie de Dieu, la vie nouvelle, la vie éternelle. Et tout ça nous amène à considérer la question vitale de non seulement où chacun de nous, individuellement, nous soutirons notre énergie vitale, c'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK, cette question-là est importante, mais si on l'amène à un niveau collectif, où est-ce que, comme organisme vivant que nous sommes, où est-ce qu'on soutire notre énergie, notre vie? La réponse, c'est simplement dans ce qui maintenant, hein, je pense que c'est un sujet connu ici, ce qu'on appelle les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal versus l'arbre de vie. Un de ces deux arbres, les deux, c'est des sources de dépendance. L'un, la dépendance, c'est soi. Hein, l'arbre de la connaissance, je dépends de moi pour déterminer le bien puis le mal, puis m'approcher du bien, m'éloigner du mal. L'autre, l'arbre de vie, c'est la dépendance à Jésus. Christ est ma vie. Mais collectivement aussi, lorsqu'on considère les deux âmes, ensemble, comme Église, on peut s'appuyer sur notre sagesse, notre volonté, nos émotions, notre particularité dénominationnelle, et ainsi de suite. Ça, c'est l'arbre de la connaissance. Ou sur Jésus en nous. C'est-à-dire, comme Paul le dit, ici, c'est dans Colossiens 1, 27 à 29. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, c'est ça, cette dépendance, non seulement individuelle, mais collective pour l'accroissement de l'Église dans la grâce de Dieu par sa vie. Et là, j'en reviens, je vous ai dit, j'allais revenir à nos trois tendances, les mouvances chrétiennes. Là, OK? Il y a pas mal trois grandes mouvances là, qui vont avec les émotions, la volonté puis la pensée. Là. On a déjà parlé de ça, vous êtes pas mal au courant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ces trois branches, quand on y pense, ça peut facilement être trois branches du même arbre. Pensez-y. Le modus operandi, ça c'est du latin, là. Le mode d'opération, c'est très, ça ressemble beaucoup. Le mode d'opération de ces arbres, de ces branches dans le même arbre, c'est « Fais ceci et tu vivras pour Dieu ». Vous allez voir un charismatique, il va vous dire « Fais ceci, cette catégorie-là, puis tu vas vivre pour Dieu ». Allez voir un baptiste ou un évangélique, il dit « Fais ça, puis tu vas vivre pour Dieu ». Allez voir un réformé, puis il va vous dire « Non, il faut que tu fasses ça, puis tu vas vivre, tu sais ». Fais ceci et tu vivras. Okay? L'ordre, c'est fait. Alors que la foi qui nous rattache à Christ, hein? Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, puis si je vis encore dans cette chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Donc, ma connexion à l'arbre de vie, c'est je vis par Dieu qui est en moi. Donc, ça ne dit pas fait, ça dit c'est fait. Tout est accompli. C'est pas do, c'est done. C'est pas un fardeau, c'est la liberté. La liberté d'avoir été libéré, justement, par le Dieu de toute grâce. C'est deux mondes, c'est deux pensées, je vous dis, c'est diamétralement opposé. Puis on peut pas amener ça à un point, dire « Ah, c'est juste ce gang-là, c'est à travers toute la chrétienté ». C'est vraiment la question de où est ma dépendance et l'issue. OK, la base, c'est la grâce. Est-ce que je m'attache à la grâce en étant christocentrique ou si je suis égocentrique, là, c'est la loi sous ses différentes formes, c'est le faire. Mais le résultat, ça va être soit la vie ou la mort. On dit pourquoi qu'il y a des églises tellement que c'est mort, il y a de l'hypocrisie, puis il y a de la gamique, puis il y a ci, puis il y a ça. C'est vraiment la question des deux arbres. C'est la question de est-ce qu'on est rattaché à Christ notre vie ou on ne l'est pas. C'est deux dépendances. Un qui est dépendance de la chair, de soi. L'autre qui est dépendance de l'esprit, de Dieu. Un qui est autosuffisant. L'autre qui est dépendant de Dieu qui vit en nous. Et je crois vraiment, là, écoutez bien, je pense que cette vérité-là que je développe dans ce point-là, c'est la plus grande et la plus précieuse promesse que le Seigneur nous a révélée, qui continue de nous révéler depuis les quelques dernières années. Que Christ est notre vie, c'est comme, waouh! N'est-ce pas que c'est une libération? N'est-ce pas que ça fait... Et vraiment, qu'on s'en réjouisse, qu'on soit pas dur envers les autres de dire, t'es rendu ci, puis ça, mais plutôt qu'on se réjouisse de le découvrir. Et que lorsque le Seigneur nous permet de le faire découvrir, parce que tout est par grâce, et la vie, ça se reproduit de soi-même, ça va donner du fruit. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant, j'aimerais juste vous lire, par rapport à la vie, là, un dernier passage dans Philippiens. Vous connaissez Philippiens chapitre 2? Philippiens chapitre 2, c'est le fameux passage où on voit la kénose de Christ et tout ça. Mais le chapitre ouvre sur... ces versets qui disent « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est comme ça que l'Église grandit dans la grâce, par la vie que nous avons. Et ça m'amène au troisième élément de notre illustration avec le corps. Non seulement la grâce, la vie, mais maintenant le fruit que produit le corps de Christ. On va lire les versets 12 à 27. Alors, regardez bien ici. On voit vraiment le détail sur la dynamique dans le corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est plus un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et là, préparez-vous, c'est le bout. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, afin que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le fruit que produit le corps de Christ, là, c'est sa vie, c'est l'unité dans la diversité. On n'a pas besoin d'être tous pareils. On peut être différents, mais se compléter. Puis ça parle ici, justement, pour pas qu'il y ait de division, Dieu nous a disposé d'une telle manière à ce qu'on dépende les uns des autres. Et donc, si on compare le verset 27 qui dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part », si on compare ça à Romains 12, 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns des autres », on a l'idée ici que le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ben, le fruit de l'Esprit et de la vie de Jésus est multiplié par la diversité. Ça, c'est le point. Si on avait juste une gang qui était toute pareille, ça ferait juste cette sorte de fruit-là, puis on dirait « Ah, c'est... » Mais là, Dieu a fait en sorte que le fruit est multiple. Tu sais, on a un Dieu créateur, un Dieu qui a fait toutes sortes de personnes différentes, puis qui toutes sortes de membres différents avec des dons différents pour se glorifier d'une manière, hein, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu fait ça là, avec toutes sortes de variétés et de diversité, avec différents membres, différentes fonctions. Et tout ça s'édifie dans l'amour. Je vous lis un passage par rapport à ça, Éphésiens chapitre 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On ne peut pas être tout ce que Dieu veut qu'on soit, seul par nous-mêmes dans notre coin. L'Église, c'est le plan de Dieu. Puis certains vont dire, « Ouais, mais on est tous morts, membres du grand corps de Jésus-Christ, puis là-là. » Moi, je parle d'une Église locale. Dieu nous a sauvés, puis il nous a placés. Puis dire, comment ça, je suis dans cette Église-là? Comment ça? Ben, c'est Dieu. Tu sais, ça fait pas si longtemps que je parlais de ça avec quelqu'un. Comment ça, moi, je suis dans cette gang-là? Ben, parce que c'est Dieu qui a décidé. C'est pas toi qui t'es sauvé, puis c'est pas toi qui t'es planté où ce que t'es. Puis, sais-tu quoi, si t'étais dans un autre, tu pourrais dire, pourquoi je parle avec eux autres? Puis, parce qu'il y a zéro milieu qui est parfait. Ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs problèmes. Puis, c'est Dieu qui décide, ben, toi, je te mets là, toi, je te mets là. Puis, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui, comme disait une sœur, c'est Dieu qui place ses pions. Il place les gens où il veut. C'est pas la question, qu'est-ce que je fais ici? C'est plutôt Dieu qui m'a mis ici, comment je peux grandir dans sa grâce en étant tout ce qui m'a équipé pour être. Puis, comme je le répète, c'est pas possible pour moi de devenir tout ce que Dieu veut que je sois sans vous autres. Puis c'est vrai pour chacun ici. On est membres les uns des autres. Fait que le fruit, là, OK, je peux dire, moi je porte du fruit dans ma vie, ben, je vais pas porter tout le fruit de la vie de Jésus en moi si je suis pas connecté avec mes frères et sœurs en Jésus. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas le plan de Dieu. On n'est pas fait pour être un œil tout seul dans un coin. Possible, un œil sur un coup, ça fait pas grand-chose. Ça a de la misère à marcher. Ça voit tout aller partout, mais ça n'entend rien. Ça n'a pas de patte, un œil. Fait... Un œil, c'est pas supposé être ça dans un coin, là. Non, mais c'est... On trouve ça un peu rigolo, mais c'est ça le point qu'il amène. Tu sais, on n'est pas fait pour être seul. Tu sais, hey, les yeux, c'est le fun, on voit, puis ouais, mais t'entends rien. Hey, je te parle! Tu vois une bouche qui parle. Non, mais je fais un peu des jokes, mais c'est presque humoristique. Certains, même, j'ai déjà lu des commentaires. Tu sais, pas les pratiquement humoristiques là-dedans. Là. Tu sais, des fois, on ne catche pas tout le temps l'humour dans la Bible, là, des fois dans les évangiles ou ici. Ben, l'idée, c'est vraiment pour amener. Personne ne peut être tout ce que Dieu l'appelle à être en tant qu'enfant de Dieu par lui-même, par elle-même. Donc, le fruit que produit le corps de Christ est un fruit qui est forcément lié à l'interdépendance. C'est par la grâce qu'on est dans le corps, c'est par sa vie qu'il y a de la croissance, et le fruit, ça va être justement c'est par cette interconnectivité que nous avons les uns envers les autres. Mais, il y a un mais, c'est beau, on parle de grâce, de grandir, puis tout ça, mais il y a tout le temps quelque chose qui met des bâtons dans les roues. C'est rien qu'un petit mot, mais « i » qui est tannant, ce mot-là. Regardez avec moi, chapitre 6, verset 15. Le péché. C'est poche, le péché, hein? On va commencer. 1 Corinthiens 6, 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? » OK, on a toujours ici la même idée, là. « Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée et un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici, ça parle du corps individuel du croyant. Bon, on peut certainement l'appliquer collectivement. Avec le problème du péché, le péché, on peut dire que c'est le ver dans le fruit. Tu sais, dans une pomme, quand il y a un ver, là, ça vous tente-tu de la manger, la pomme? Ben, c'est ça. Puis, juste un point ici, le péché, souvent quand on pense à péché, on peut penser aux œuvres manifestes de la chair. Dans Galates 5, là, c'est évident, OK? Mais le péché, puis la chair, le moi, le plus... face auquel nous sommes le plus vulnérables, c'est celui qui est le plus subtil. Parce qu'il est sournois. C'est la contrefaçon, l'imitation. Quand ça a l'air donc beau, mais que ça n'a pas plus de vie, parce que la source, c'est pas Christ, c'est la chair. Et c'est pour ça que ça ressemble... Tu sais, c'est la justice propre, elle ressemble à celle de Jésus, mais elle est sans vie surnaturelle. Elle est encore plus dommageable, parce que les œuvres manifestes de la chair, tu peux venir à 1 000 de loin. Mais la justice propre, toi-même, tu peux en être aveuglé, puis faire du mal, donner la mort. Mes amis, moi, je vous dis, c'est incroyable dans ma vie. Je suis tellement content que le Seigneur m'a au moins ouvert les yeux. Je ne dis pas, là, je suis parvenu, puis, mais le fait que juste que le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, c'était comme, ah, tout ce temps-là, je voulais faire le bien, puis c'est la mort que je donnais. Parce que c'est la fameuse question des deux arbres. Maintenant, je vous amène un point important, puis j'ai presque fini. Ça fait combien de temps que je prêche? Ah, 38 minutes, pas si pire. Savez-vous où est-ce qu'on trace la ligne? Où qu'on trace la ligne aujourd'hui? On va tracer une ligne. Où on trace la ligne entre l'authentique et la contrefaçon? Entre le fruit authentique pour Dieu à sa gloire, puis la contrefaçon de la justice propre, le fruit en plastique. OK? Ça aussi, oui. Un fruit avec un verre ou un fruit en plastique, c'est pas très comestible, n'est-ce pas? Mais est où la ligne? Est où la différence? Écoutez bien, je vais vous amener un point. Le fruit de Christ dans nos vies, là où est-ce qu'il va se produire, c'est lorsqu'on accepte de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ou pour le dire autrement, c'est notre réponse aux blessures. C'est là que ça se passe. Les blessures... Le souffrir dans nos relations, c'est l'émondage du Père. C'est Dieu qui dit, qui nous montre, cette branche-là, là, ça ne porte pas du fruit. puis c'est par la souffrance, puis on voit, hein, ça marche pas, puis là, OK. C'est là qu'on s'arrête. Sinon, on pense que tout est beau, puis la vie est belle, puis... Hein, non, t'es en train de mettre de l'énergie, tu passes de la sève dans ce qui porte pas de fruits. Et donc, ça peut pas continuer. Dieu est monde, Dieu coupe pour que ce qui est de lui, ça porte plus de fruits. Et là, là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'important. Parce que souvent, on y pense de façon individuelle. « Ah, je dois accepter de souffrir pour le bien et le péché des autres. » Mais de façon collective, la souffrance... Tantôt, c'était dans le cantique, il y avait quelque chose à la souffrance. Il faudrait que je leur sorte, là. Je n'ai pas le temps de vous chercher devant tout le monde, mais... Ça parlait de la souffrance dans le cantique qu'on a chanté avant. Quelqu'un regardait donc et trouvait moi ça souffrance là, dans le cantique 125 qu'on vient de chanter. OK, ce que je veux dire, là, c'est que... Oui, OK... C'est l'affaire d'apprendre à souffrir, ça s'apprend de souffrir, ça s'apprend individuellement. Vous, ça s'apprend aussi collectivement. Je veux juste conclure notre message avec cette pensée-là. Comment est-ce qu'on est par rapport à la souffrance? C'est quoi notre réaction à la souffrance? Comment qu'on la voit? Est-ce qu'on l'accepte non seulement comme une part inévitable de la vie sur Terre dans ce monde déchu, mais comme partie intégrante de l'œuvre de grâce de Dieu pour sa vie, pour le fruit? C'est pas « Ah, oh, merci Dieu, je suis assez content de souffrir. Merci pour les claques d'en face de mes frères et sœurs. » C'est pas ça l'idée, là. Personne dit ça, là. Si vous dites ça, vous êtes un peu... OK? Non, c'est plus que... On voit que Dieu est en train de s'occuper. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Dieu est monde. C'est pour ça qu'on dit pas « Merci, aïe, ça fait mal. » Merci, tu ne laisses pas nous endurcir. Tu ne laisses pas être aveuglé. Tu ne laisses pas... errer dans nos raisonnements, dans nos tendances. C'est ça l'idée de la souffrance. Parce que je vous le rappelle, l'émondage, c'est pas juste la souffrance. Parce que les gens dans le monde, ils souffrent. Mais l'émondage pour un enfant de Dieu, c'est la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, avec sa parole sur notre souffrance. C'est Dieu qui va prendre la souffrance, puis là, il va nous communiquer quelque chose à nos cœurs, puis il va nous communiquer quelque chose même ensemble. Et je pense que vraiment, pensez à ça, là. Je pense que, tu sais, si on faisait un tour de table, je pense qu'individuellement, on a tous vécu différents degrés de souffrance et tout ça, puis démondage dans notre vie. Mais collectivement, Dieu nous a fait la grâce pour lui, pour porter du fruit, de nous émonder par la souffrance. En tant qu'Église, on ne devrait pas avoir peur de ça. On n'a pas à courir après, c'est Dieu qui émonde. Mais de l'accepter, de dire « Seigneur, moi, tu t'occupes de nous autres, tu fais quelque chose avec ça. » Donc, on passe de façon pas juste individuelle par rapport à tout ça, mais de façon collective ensemble. Vous savez, un corps est en santé. Lorsqu'il est en santé, le corps, il grandit. Il est dynamique, hein? Quelqu'un qui est en santé, il est capable de faire du jogging, tout ça. Des fois, quand on parle de la santé, on a de la misère. Mais mettons que le cancer rentre dans le corps. Mais là, c'est la destruction, c'est l'affaiblissement. Ça coupe même la croissance. Ben, c'est la même chose par rapport à la réponse de la chair aux blessures. Quand une église répond à la souffrance, aux blessures par la chair, c'est le cancer qui rentre dans l'église. Il faut le voir demain, c'est la mort. Parce qu'on ne choisit pas la vie. Dieu nous amène à la souffrance pour qu'on choisisse la vie. Puis là, la vie grandit, la vie fructifie. Sinon, c'est l'infection, c'est la gangrène. Et écoutez bien ce que ça dit dans Romains 14, j'ai presque fini. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et donc, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Ah, puis tiens, tant qu'à ça, on est dans 1 Corinthiens. Regardez avec moi 10:31. 1 Corinthiens 10:31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour vous-même. Non, hein? Bon, hein, je n'ai réveillé 2-3. Faites tout pour la gloire de Dieu, pour lui. Savez-vous que personne ne pêche, personne ne s'endurcit, personne ne s'irrite contre Dieu, contre ses voies, contre son prochain, sans que tous ceux qui sont rattachés à lui n'en souffrent et n'en aillent les conséquences. Personne vit en vase clos. C'est-à-dire qu'on a on a besoin des uns des autres pour grandir, pour devenir tout ce que Dieu veut qu'on soit. Mais aussi quand on pêche, quand le cancer du péché, si on le laisse rentrer dans nos cœurs, dans nos vies, on n'en est pas les seules victimes. Les autres aussi le sont. Donc, c'est deux facettes ici. Au fait d'être un corps, d'être membre les uns des autres. Et ça, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, au bout du compte, c'est Dieu qui est diffamé. Et au contraire, lorsque sa vie grandit et porte du fruit, Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, je termine avec une question. Quelle vérité, avec ou sans S, une ou plusieurs vérités, quelle vérité le Seigneur, puis là, je commence en le disant, nous révèle par l'idée du corps. Quand on se pose la question, OK, on peut dire individuellement, qu'est-ce que le Seigneur me montre? Mais au-delà de mon union, moi, personnelle avec Jésus, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer en ce moment sur notre union les uns avec les autres, avec lui qui est notre tête? C'est bon de se poser cette question-là parce que ça nous sort de juste notre petit nous-mêmes puis tout ça. Puis souvent, ça nous amène à voir, à un peu, là, ma réponse à ce que je vis, à ce que Dieu m'envoie. J'ai des frères et sœurs qui sont intimement reliés à ça. Puis même, savez-vous, même si les gens ne le savent pas, on amène ça dans l'Église. J'arrive ici avec de l'amertume dans mon cœur, puis je n'ai pas pardonné un frère, j'ai quelque chose. J'ai même, je ne le dis pas à personne, c'est une réalité spirituelle que j'amène avec moi dans mes bagages. C'est un parfum de mauvaise odeur dans l'Église. Ça l'affecte mes frères et sœurs, même si j'ai rien dit.
Et ça finit toujours par sortir à quelque part.
Ça finit toujours par sortir à quelque part, effectivement. Oui. Donc, mettons pas ça compliqué ce matin. C'est bien simple. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Et je dirais, Dieu nous montre sa volonté, ses plans, parce qu'il nous envoie. Il nous envoie des personnes, puis il nous envoie des circonstances. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? C'est lui la tête, c'est lui qui décide. Notre rôle, c'est juste d'y faire confiance. Dans l'humilité, il nous soumet à lui. Parce qu'on dit, « Hey Dieu, pourquoi t'envoies ça? Comment ça? T'as pas le droit? » Demandez à Job. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec qui qu'il veut. Hein? Parce que moi, si, mettons, Dieu m'avait demandé conseil, ben non, prends pas Job. Prends un des trois là, qui sont tannants. Les autres, donnez une bonne varlope. Là, t'sais. Mais Job, quand même. Là, t'sais. Non, Dieu, il fait ce qu'il veut avec qui qu'il veut. Puis il envoie la calamité, il envoie la souffrance, il envoie la discorde. Pas qu'il est l'auteur du mal, là, comprenez. Là. Dieu, tu sais, toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Il n'y a rien qui mauvais qui vient de Dieu. Mais Dieu permet au mal de se manifester et tout ça. Mais voici à quoi je veux en venir simplement avec mon appel ce matin. Qu'est-ce que Dieu nous envoie? Qu'est-ce qu'il nous communique avec ça? Ou je le mets dans ces mots-ci. Qui ou qu'est-ce que Dieu t'envoie pour t'appeler à lui? Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, puis ta vie est vide, ta vie n'a pas de sens, puis il me semble plus ça va, pire c'est Dieu dans sa bonté qui t'appelle à lui. Puis Dieu, regardez, on regarde à travers ce qu'il a fait, puis il continue de le faire, Dieu nous appelle constamment à lui. Tu sais, quand on a regardé le premier chapitre au début du mois de mai, ou c'était celui à la fin du mois d'avril, quand on a dit... Hey, les vérités qu'on voit, là, que ce ne soit pas juste des choses dans un livre, puis des vérités qu'on apprend, qu'on soit émerveillé de Dieu. Quand Dieu nous envoie des choses, puis oui, des fois, ça fait mal. Savez-vous que Dieu veut qu'au bout du compte, on dise, « Wow, Dieu, t'es extraordinaire. » Que Dieu nous aide à vraiment être émerveillés sans cesse de qui il est. C'est pour ça qu'il fait toutes choses, c'est pour ça qu'il nous a mis ensemble les uns les autres. C'est pour lui. C'est pour que lui soit... glorifié au milieu de nous autres en se manifestant tel qu'il est et que nous puissions non seulement individuellement mais collectivement répondre à cet appel. Dieu nous envoie toutes sortes de choses, de personnes parce qu'il nous appelle à lui et qu'on puisse répondre par la foi en se confiant en lui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes pas appelé à une religion à faire ci, par ça, vous êtes appelé à une personne, le glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est celui qui sauve. Enfant de Dieu, il est notre tête. C'est lui qui décide. Et il fait toutes choses à merveille. Son nom est merveilleux. Amen.
Amen.
Merci Seigneur, quel bon temps. Avec ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Seigneur, merci que malgré la défaillance humaine et l'instrument, Seigneur, toi tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et ce qu'on pense dans l'Église. Et on te prie pour ça, Seigneur, qu'on réponde par la foi à toi. Tu nous appelles à toi. Ton appel dans la parole, c'est toujours à une personne. Tu as dit, venez à moi. Puis ça parle dans Ésaïe, quand ça parle de l'homme d'iniquité, qui vienne à Dieu. Pas à un concept, pas à un rituel, à une personne. Au Dieu, trois fois saint, vivant, bon, vrai, le seul sauveur, le seul Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Je prie qu'on puisse répondre par la foi. Même maintenant, Seigneur, dirige ce temps en réponse à ce qu'on a entendu, et que tu en aies toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Si vous